Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. C'est reparti pour un tour. Après avoir mis de côté cet aspect pendant des années, les fabricants de smartphones refont de la finesse un argument commercial. Alors que l'on attend un hypothétique iPhone 17 Air, Samsung a présenté cette semaine un Galaxy Edge très fin. Cette nouvelle mode est-elle une bonne chose? On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron s'est engagé à mettre fin à une absurdité concernant Apple Pay, Apple Intelligence sera bientôt activé par défaut et Donald Trump a annoncé un énorme plan d'investissement sur l'intelligence artificielle aux États-Unis. Nous sommes le samedi 25 janvier, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer. Une fois n'est pas coutume, on a pas mal parlé de Samsung cette semaine sur e-génération. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ?
Salut Stéphane, oui ça va mieux.
Oui, t'as été malade cette semaine, mais je crois que ça va un peu mieux heureusement.
Oui, non, c'est ça. J'ai passé ma semaine à jouer avec l'application de Sinvito de l'Apple Watch. Alors c'est intéressant, tu peux tester des trucs, mais c'est le genre de choses que tu peux tester vraiment uniquement quand t'es malade. Donc c'est un peu... Faut en profiter quand ça arrive.
Voilà,
faut saisir l'occasion.
Est-ce que t'as quand même pu suivre en direct le Galaxy Unpacked mercredi ?
Je dois t'avouer qu'à cause de ce syndrome grippal, j'ai découvert l'existence de cet événement le jeudi soir quand Nicolas parlait sur notre système de messagerie, sur notre système de chat, nous parlait de quelque chose par rapport à l'iPhone Air.
Ok, bah écoute, je vais te faire un résumé tout de suite. Comme à chaque début d'année, Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme phare de smartphones. Alors bon, t'as pas loupé grand-chose, hein, parce que les Galaxy S25 n'apportent pas vraiment de grands changements par rapport au S24. Il y a encore trois modèles, le S25, le S25 Plus et le S25 Ultra. Alors donc les évolutions matérielles sont marginales, hein. Ils ont essentiellement un nouveau système sur puce. Enfin, je suis quand même curieux de voir l'écran du Ultra, qui est présenté comme très résistant et encore meilleur pour atténuer les reflets. Ça peut être pratique. Mais finalement, le modèle qui a plus retenu l'attention, c'est celui sur lequel on sait le moins de choses. C'est le Galaxy S25 Edge, un modèle qui est plus fin que les autres. Alors, on ne connaît pas encore exactement sa finesse, mais elle devrait être sous les 7 mm. Et en comparaison, l'iPhone le plus fin à ce jour, c'est l'iPhone 6 avec 6,9 mm. Et cette semaine, Oppo a aussi montré un bout de son prochain smartphone pliant, qui devrait être le plus fin au monde, et on attend évidemment un supposé iPhone 17 Air cette année. Est-ce que d'après toi c'est une bonne chose, cette nouvelle course à la finesse ? Parce qu'on peut craindre évidemment une autonomie pas géniale sur ces appareils très fins.
Bah c'est un effet de mode, cela paraît, cela vient. Tu parlais très justement de l'iPhone 6, il faut se souvenir de cette époque, c'était des très jolis smartphones, ils étaient fins. Mais leur autonomie n'était quand même pas terrible et ils avaient même tendance à se plier un peu trop facilement. Bon, alors, c'est vrai que concernant ces modèles, on parle beaucoup de finesse, mais il faut aussi également se rappeler du poids de ces appareils. Alors, j'ai été chercher l'information, ça va presque choquer, je pense, hein. L'iPhone 6 pesait 129 grammes. Mmh. Alors, le 6 Plus, qui ressemble un peu plus, on va dire, au format des iPhones actuels, bon, il affichait déjà 172 grammes. Alors, donc, depuis l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, nos smartphones sont toujours plus épais et le poids n'a jamais cessé de monter. Voilà, actuellement, l'iPhone Pro pèse 200 grammes et le Pro Max, c'est entre 225 et 230 grammes.
Là, c'est presque deux fois plus que l'iPhone 6 il y a 10 ans, quoi.
Ouais, voilà. Alors... Justement, c'est l'autre aspect qui m'intéresse. Qu'en sera-t-il de ces iPhone Air ? Est-ce qu'ils seront effectivement, donc ils seront fins, ça c'est une certitude, mais est-ce qu'ils seront aussi beaucoup plus légers ? C'est vraiment l'un des points qui m'intéresse. En ce qui concerne l'autonomie, en théorie, des nouvelles technologies de batterie devraient changer la donne. Après, il y a des rumeurs qui laissent entendre que ces nouvelles batteries sont plutôt en retard. Donc, on verra bien. Je pense sincèrement qu'il y a un marché pour des gens qui veulent un iPhone qui soit tout simplement plus simple, moins encombrant, mais qui tourne bien, qui soit pratique, voilà, qui n'est pas forcément... Enfin, Apple, et à juste titre, fait des caisses sur les capacités audio et vidéo de ces iPhones Pro et Pro Max, Mais il y a des fois, je me dis, oui, forcément, ça intéresse les personnes qui font des réseaux sociaux, enfin, qui sont créateurs de contenu, notamment sur les réseaux sociaux haute dose. Mais pour l'utilisateur lambda, est-ce que c'est pas un peu too much? Je sais pas. En tout cas, il faut quand même se rendre compte que voilà, ces iPhones sont quand même produits. Enfin, il y a quand même des centaines de millions de clients et il y a quand même des gens qui ont des besoins bien différents. Alors, tu parlais donc, enfin, tu posais la question sur l'autonomie. Je suis à moitié d'accord avec toi. Moi, ce qui m'inquiète avec ces appareils, enfin, je parlerais plutôt de durabilité ou de longévité. Et c'est d'ailleurs tout le drame des tests que l'on fait d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à J0, cet iPhone, il pourrait très bien avoir une autonomie finalement tout à fait convenable. C'est-à-dire que tu l'utilises de manière un petit peu intensive. Bah, il passe la journée tout juste, mais il la passe. Mais alors, voilà, c'est bien là le souci. Enfin, quelle autonomie aura ce même appareil dans 2, 3 ans lorsque l'autonomie sera, enfin, lorsque la batterie ne sera plus aussi performante que par le passé, qu'Apple Intelligence sera encore utilisé plus fréquemment par le système sur puce. Enfin, voilà, c'est ça qui m'inquiète en fait.
Mais ça, je le vois avec les iPhone 12 mini ou les iPhone SE qui sont autour de moi et qui ont plusieurs années derrière eux. Effectivement, bah là, maintenant, l'utilisateur, il est quasiment obligé d'avoir toujours une batterie externe dans sa poche au cas où pour passer la journée. Parce que après des années d'utilisation, bah, la batterie donc a une capacité moindre et là, ça devient vraiment compliqué.
Et c'est d'autant plus étonnant que ce même appareil, non, enfin, tu diras sans doute mieux que moi, d'un point de vue performance, ne sont pas.
Oui, ça tourne toujours très bien. Hein. L'iPhone 12 mini, je vois dans la famille, c'est encore un super iPhone, excepté donc la question de l'autonomie, quoi. Ouais, c'est ça qui est un peu gênant maintenant.
Mais c'est ça justement, et c'est là où tu as raison pour l'iPhone Air, c'est-à-dire que. Alors pour le 12 mini, c'était encore plus vrai, c'est que le jour de sa sortie, l'autonomie était juste correcte. Et donc, c'est voilà, quand 2 ans plus tard, forcément, ou 4 ans plus tard, c'est un problème.
On va passer à un sujet abracadabrantesque. Un TikToker très suivi a raconté dans une vidéo qu'il s'était vu infliger une amende de 90 euros et 3 points retirés sur le permis pour avoir fait quelque chose d'a priori anodin. Il a payé le péage avec Apple Pay. Or, dans le code de la route, il est écrit l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Fin de citation. Cette règle fait que sortir son téléphone au volant pour payer est assimilé à l'utiliser en roulant, et le TikToker affirme avoir été verbalisé pour cette raison. Alors sa vidéo a été vue plusieurs millions de fois jusqu'à l'Élysée, et Emmanuel Macron a fait à son tour une vidéo dans laquelle il reconnaît qu'en 2025, on devrait pouvoir payer au péage avec son téléphone sans se prendre une amende, et que le ministère de l'Intérieur va se saisir du dossier. Est-ce que tu as déjà eu des ennuis avec Apple Pay pour ta part, Christophe?
C'est quand même pervers cette histoire finalement quand on y réfléchit. C'est-à-dire que, bon, c'était interdit, enfin ça l'est plus ou moins encore puisque je l'imagine qu'il n'y a pas eu encore de décret ou quoi que ce soit. Mais, enfin, si c'est interdit, la société, le gestionnaire d'autoroute ne devrait pas autoriser alors les paiements d'Apple Pay. Quand on y
Bah, en fait,
réfléchit.
ouais, mais parce qu'il autorise les paiements sans contact, donc avec ta carte bancaire, tu as le droit de faire du sans contact, mais pas avec Apple Pay. Alors, est-ce qu'il peut bloquer, tu vois, le sans contact Apple Pay, mais pas le sans contact des cartes bancaires? Ça, je sais pas si c'est possible.
Ouais,
Ça
j'en sais rien, ouais.
devient
Ouais, c'est tendu,
compliqué.
là, c'est vraiment
Ouais.
tendu cette affaire. Bon, faut, moi, j'ai très rarement eu des soucis avec Apple Pay, peut-être au début, mais maintenant, de toute façon, le paiement sans contact et le paiement par smartphone sont quand même rentrés dans les mœurs. J'ai eu un souci l'année dernière dans un supermarché, j'avais fait quelques courses et donc bah, je voulais payer. Je crois que j'avais uniquement ma montre, donc j'ai voulu payer avec ma montre. J'avais 2 ou 3 cartes dessus, rien qui passe. Donc je rentre très rapidement chez moi, je prends mon porte-carte et je paie avec ma carte et ça ne marche toujours pas. Et en fait, bah, ce n'était pas Apple Pay le problème, c'était Revolut qui avait un problème avec son système de paiement. Donc voilà. Ce qui me fait penser, enfin, que j'ai un tout petit conseil, si vous utilisez fréquemment Apple Pay, c'est toujours bien si vous en avez la possibilité d'avoir plusieurs cartes Apple Pay.
Ouais.
de plusieurs banques, mais surtout, à la limite, de réseaux différents. C'est-à-dire, prenez, par exemple, je sais pas, une carte Apple Pay, Boursorama, Mastercard et une carte CIC Visa. Comme ça, s'il y a des problèmes, là, enfin, en théorie, vous avez fait le maximum pour les éviter.
On va faire un point sur les mises à jour Apple du moment. Les releases candidates d'iOS 18.3 et macOS 15.3 sont sorties mardi soir, ce qui veut dire que les versions finales sont pour bientôt. Ces deux mises à jour ne changent pas grand-chose, à une exception près. Elles activent Apple Intelligence par défaut sur les appareils compatibles. Je rappelle que Apple Intelligence n'est pas encore officiellement disponible en Europe pour l'instant, mais ça va arriver très bientôt, on s'en approche finalement parce que ça sera en avril. C'est pas bizarre d'activer par défaut des fonctionnalités qui sont encore en bêta et qui prennent beaucoup d'espace de stockage?
C'est de plus en plus l'histoire des nouvelles technologies. On vit dans un monde en bêta. Et quand on voit les efforts d'Apple pour mettre au point Apple Intelligence, je comprends qu'ils aient très envie que leur nouveau joujou soit largement utilisé. Apple espère qu'Apple Intelligence va devenir un argument de vente pour ses nouveaux iPhones. Il faut donc le généraliser au plus vite et comme ça donner envie aux utilisateurs qui ont un ancien iPhone d'upgrader. Après, je me doute bien qu'il y aura une astuce qui sera très populaire dès la sortie de 18.3 qui doit déjà l'être aux États-Unis, qui est comment désactiver Apple Intelligence et récupérer X gigas de données.
Ouais. Puis c'est même pas vraiment une astuce, quoi. C'est juste une option à décocher, voilà.
Mais on voit bien, on imagine bien, par exemple, dans des logiciels type Clean My Mac qui cherche toujours qui cherche de temps en temps les gigas. Qui ne servent à rien, qui cherchent à faire de la place sur votre disque. On va s'occuper d'Apple Intelligence. Surtout, comme tu le disais, au fil du temps, Apple Intelligence prend de plus en plus de place. Mmh. On était à 2,5 gigas sous 18 points, on est à 7 gigas avec 18.2, et tout laisse à penser que ça va grimper à mesure qu'Apple ajoute des nouvelles fonctionnalités. Après la RAM, finalement, Apple va peut-être finir par revoir la taille de ses SSD sur ses configurations entrée de gamme. En tout cas, on peut l'espérer.
Bah, ça serait bien, ouais. Pour accompagner Apple Intelligence, ça serait le minimum. Ouais.
Alors, il y a une petite chose à noter qui va finalement être intéressant pour nous, Européens. Donc, c'est que 18.3, normalement, va sortir en début de semaine prochaine. Donc la suite logique voudrait que la première bêta de 18.4 sorte dans les 24 ou 48 heures qui suivent, et donc que l'on puisse enfin tester certaines fonctionnalités d'Apple Intelligence en français.
Je ne sais pas si ça va arriver effectivement dans la première bêta ou peut-être dans une bêta un peu après, parce qu'il y aura sûrement plusieurs bêtas pour 18.4 qui s'annoncent comme une grosse mise à jour. Donc ce ne sera peut-être pas tout de suite, mais d'ici le mois d'avril, c'est quasiment sûr qu'on aura une bêta avec Apple Intelligence en français. Ouais.
T'as raison, mais je suis un petit peu impatient.
On va terminer le tour de l'actu en faisant un passage aux États-Unis. Alors, au cas où cela vous aurait échappé, Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche depuis lundi. Tim Cook était d'ailleurs présent à la cérémonie d'investiture, cérémonie pour laquelle il a fait un don personnel d'$1 million. Alors, parmi ses premières actions, le nouveau président américain a révoqué un décret de son prédécesseur qui visait à réduire les risques liés à l'intelligence artificielle. Et il a annoncé un énorme plan d'investissement de $500 milliards dans l'intelligence artificielle. Alors, ce projet nommé Stargate est porté notamment par OpenAI, Oracle et SoftBank. Il vise surtout à bâtir un vaste réseau de centres de données aux États-Unis pour faire tourner ces gourmandes technologies que sont les intelligences artificielles génératives. Sam Altman, le patron d'OpenAI, était présent aux côtés de Donald Trump pour cette annonce, avec également Larry Ellison d'Oracle et Masayoshi Son de SoftBank. Mais il n'était pas là, Elon Musk ?
Non, il est occupé à racheter TikTok, je crois. En tout cas, la branche américaine. Quoi qu'on pense des Américains, de la politique, de leur président, ils ont quand même parfaitement compris les enjeux du 21e siècle. On a l'impression qu'ils sont en train de construire des pyramides de l'intelligence artificielle Rendez-vous compte, ces data centers devraient avoir une superficie de 50 000 m². Alors j'ai regardé des éléments de comparaison. ChatGPT m'a dit que c'est l'équivalent de 7 terrains de football. Déjà un terrain de foot, c'est grand, alors 7. D'ailleurs, c'est ce que tu disais, hein, ce ne sont pas que des data centers. Ce projet vise à mettre en place un écosystème complet qui prend en compte notamment l'aspect énergétique. Alors parfois on joue avec les chiffres, enfin souvent même pour faire des effets d'annonce, mais quand on compare les sommes investies pour l'intelligence artificielle aux États-Unis et en Europe, on peut légitimement bien penser qu'on est quand même assez mal parti dans ce nouveau domaine. Bref, au vu de cette opportunité, c'est une opportunité, j'ai envie de dire, quasi unique, moi, je peux comprendre qu'Elon Musk soit un brin vexé de ne pas avoir été de la partie.
Eh bien écoute, merci pour ce retour sur l'actu Christophe. Bon week-end.
Bon week-end à tous.
Et à la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous de sortie de veille. Salut à tous.